Joao Martins Pereira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes candidat avec Cécile Panassac du Parti Socialiste et du Nouveau Front Populaire pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet prochain pour les communes de Maison-Alfort, Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et Saint-Maurice, autrement dit la 8e circonscription du Val-de-Marne. Vous avez 28 ans,
oui.
Vous travaillez dans le financement des énergies renouvelables. Alors, sur le papier, la gauche dont vous êtes aborde le scrutin sous les mêmes auspices qu'en 2022, à la différence près que le Nouveau Front Populaire a remplacé la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Quelle différence y a-t-il donc entre la NUP, qui n'a pas fonctionné après les élections, et le NFP ?
Déjà, merci pour cette invitation. Il y a une vraie différence. Pour moi, ici, on n'est pas dans une NUPES bis ou une NUPES 2, puisqu'il y a en effet l'accord de 2022 qui a vécu et qu'on a évidemment validé, mais qui a vécu justement et qui demandait à être renouvelé. Aujourd'hui, on a un contexte qui est encore plus grave que celui de 2022 et on a donc un nouveau front populaire et donc une alliance à gauche qui est beaucoup plus large que celle qui avait été faite dans le cadre de la NUPES avec tous les partis de gauche qui sont représentés et d'ailleurs, vous voyez, parfois d'ailleurs ça nous a reproché. Mais cette alliance, elle va de Philippe Poutou à François Hollande, autant dire des gens qui n'étaient pas justement d'ailleurs dans la NUPES à l'époque. Et donc aujourd'hui, on a fait cette alliance non pas simplement à cause du contexte, mais aussi autour d'un programme de lignes claires qui permettent à tout le monde justement de se retrouver, de proposer une alternative crédible pour le pays. C'est pas seulement une alliance contre, mais c'est aussi une alliance pour le futur de notre pays.
Mais justement, la question de la cohérence de ce programme porté par le NFP se pose aussi, vous le disiez. Le programme s'étend d'un, disons, centre-gauche social-libéral porté par François Hollande à une dite extrême-gauche anti-libérale incarnée par Philippe Poutou.
C'est vrai qu'il y a une diversité, je pense que personne ne la nie et l'idée n'est pas de le mettre sous le tapis. Mais par contre, toutes ces composantes-là de la gauche se sont réunies et se sont retrouvées autour d'un programme, et notamment autour d'un certain nombre d'urgences. L'urgence écologique, l'urgence démocratique, l'urgence sociale. Et on a réussi justement à trouver des positions communes que tout le monde soutiendra demain à l'Assemblée nationale parmi les députés du Nouveau Front Populaire, et on espère d'avoir cette majorité à l'Assemblée pour pouvoir mettre en place ce projet, qui est un projet voilà d'espoir, de confiance, d'avenir, et qui permet justement de retrouver toutes les composantes de la gauche autour de ces valeurs qui y sont transmises.
L'ancien président de la République, justement, François Hollande, se présente également à ces élections. Il brigue la première circonscription de la Corrèze. Quel regard portez-vous sur cette candidature d'un ancien président de bientôt 70 ans, du PS, votre parti, qui a déçu une majorité des électeurs de gauche? Quel regard portez-vous sur cette candidature, vous qui, à 28 ans, incarnez le PS aujourd'hui?
Oui, alors après, l'idée n'est pas non plus d'avoir que des candidats de moins de 30 ans, même si je me réjouis évidemment que le parti et l'ensemble du Nouveau Front Populaire m'aient fait confiance. François Hollande, évidemment, moi, sa candidature m'a surprise, puisque dans le timing où on l'a appris, je m'y attendais pas forcément, je pense comme beaucoup de monde. Maintenant, je pense que c'est assez intéressant d'avoir quelqu'un comme lui qui se sent de contribuer quand même au rassemblement de la gauche, de contribuer aussi par son expérience, et je pense que ces échecs, il a pu aussi les reconnaître, et le Parti Socialiste a fait aussi le bilan et le droit d'inventaire de son mandat, et donc c'est bien sûr en conscience de toutes ces indications-là, et encore une fois sur la base d'un programme qui a été validé et donc visiblement auquel il souscrit et qu'il s'engage à défendre demain s'il est élu à l'Assemblée Nationale, et donc dans ce cadre-là, je trouve que c'est une bonne chose, une voie qui quand même porte et est importante.
Pour les élections européennes, vous figuriez à la 47e position de la liste Réveiller l'Europe portée par Raphaël Glucksmann. Comment avez-vous vécu son éviction des négociations de la mise en place du NFP ?
Alors, il n'a pas du tout été, disons, viré des négociations, bien au contraire, puisque Place Publique est bien partie à l'accord et est bien intégré à ce nouveau front populaire, et d'ailleurs il le défend je trouve avec une certaine forme de dignité, et je me retrouve pleinement d'ailleurs dans ce qu'il indique avec la contribution qu'il a eue, et moi je trouve très positive et très claire sur un certain nombre de lignes rouges qu'il fallait intégrer justement au programme et qui ont été intégrées au programme. Personne ne peut douter de sa sincérité de l'engagement à gauche et de la ligne ligne qu'il a portée et dans laquelle je me retrouve dans les élections européennes. Et donc aujourd'hui, c'est en pleine conscience là aussi, en pleine responsabilité et fier, je crois, d'avoir pu justement aussi intégrer un certain nombre de choses dans le programme, qu'il fait partie justement de ce Front populaire. Et lui et Aurore Laluc, qui est aussi coprésidente de Place Publique, ont participé justement à la rédaction de ce programme.
Ce que je voulais dire en parlant d'éviction, c'est qu'on ne le voit pas beaucoup, Raphaël Glucksmann, alors qu'il est arrivé en tête à gauche des élections européennes, et ce NFP, ce nouveau Front populaire, est plutôt porté par Manuel Bompard, Olivier Faure, Fabien Roussel et Marine Tondelier.
Oui, parce que Raphaël Glucksmann a une aura justement dans le cadre aussi du mandat européen qu'il porte et de cette campagne européenne qui vient de s'achever. Maintenant, on a évidemment aussi les équilibres de l'Assemblée nationale, et l'idée c'est qu'il ait aussi sa voix à ce chapitre-là, et il a des candidats de Place Publique qui sont investis par le nouveau Front populaire, et donc son parti et lui-même auront aussi, il l'a indiqué le soir des élections européennes, une voix à porter dans le cadre aussi national. Et donc évidemment son implication médiatique est d'une autre nature que celle dans le cadre de sa candidature pour les élections européennes, mais elle est bien là, elle est présente, et il fait campagne. Il était il y a quelques heures ou quelques jours à Marseille aux côtés de Benoît Payan et des candidats du nouveau Front populaire pour défendre justement le projet d'avenir que l'on porte. Et donc il est pleinement impliqué, il est pleinement présent avec sa liberté et avec sa conscience sur ce nouveau Front populaire.
Joao Martins Pereira, que répondez-vous aux candidats du camp présidentiel quand ils estiment qu'il y a trois fronts qui s'affrontent pendant ces élections? Et je vais ici reprendre les dénominations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier matin sur BFM TV. Il a parlé d'un front insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, vous en l'occurrence, d'un front national, le Rassemblement National, et d'un front républicain, le sien. Comment expliquez-vous que le PS, qui sort gagnant des élections européennes, en tête des votes à gauche, et assez loin devant la France Insoumise, soit balayé d'un revers de main et qualifié de compagnon de route, parmi tant d'autres?
Ça se saurait si Gérald Darmanin était objectif dans cette présentation. Je crois qu'il a tout intérêt, vu de sa fenêtre, que d'attiser, on va dire, les oppositions et de caricaturer finalement la situation politique française. Là où il a raison, c'est qu'il y a bien un bloc Front National et qui aujourd'hui a un pied dans la porte et un pied à l'Élysée pour 2027 et un pied à Matignon dès aujourd'hui, et donc contre lequel il faut peser et contre lesquels il faut imposer une alternative. Dire que le camp macroniste est le seul camp républicain, bah en fait c'est la stratégie qu'ils ont eue depuis 2022, et on voit l'échec, puisque grâce à leur politique, en réalité même depuis 2017, on se retrouve avec aujourd'hui l'extrême droite à 40%, non pas dans des intentions de vote, mais dans les votes effectifs pour les élections européennes. Donc poser cette alternative concrètement, nous, le chaos, on voit justement où ça nous mène, au chaos. Et donc je crois que c'est complètement irresponsable de la part de Gérald Darmanin. Maintenant, sur la position du Parti Socialiste au sein du Nouveau Front Populaire. On a évidemment contribué à ce front, on est évidemment allié à la LFI, mais pas que, il faudrait quand même pas oublier qu'on a aussi nos amis écologistes,
les communistes, Parti communiste français, oui.
Bien sûr, on a aussi Génération, on a Place Publique que je mentionnais, on a aussi d'autres groupes,
voilà, NPA, Lutte Ouvrière,
la Lutte Ouvrière, tout à fait, et qui viennent apporter aussi leur contribution. Maintenant, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est justement le programme, et aujourd'hui le programme qui est approuvé dans le cadre du Nouveau Front Populaire, il a été quasi unanimement approuvé par le Parti Socialiste, de même du côté de la LFI et de même du côté de toutes les composantes de ce nouveau Front Populaire. Et donc aujourd'hui dire que c'est le programme finalement de Jean-Luc Mélenchon, eh ben écoutez, j'invite Gérald Darmanin peut-être à reprendre un petit peu de lecture et à revoir le programme qui était celui de Monsieur Mélenchon par exemple dans les élections présidentielles. Il y a des choses évidemment qui se recoupent, mais parce qu'on n'est pas en désaccord sur tout à gauche quand même, faut aussi saluer qu'on ait un certain nombre de sujets sur lesquels on est d'accord. Et donc c'est précisément l'objet de ce programme, et encore une fois avec tous les partis qui ont pu y mettre leur touche, évidemment, la LFI bien sûr, mais au même rang que tous les autres. Et c'est pour ça aussi que je souhaite dire qu'on n'est pas dans le même contexte que 2022, où on sortait des élections présidentielles avec un Jean-Luc Mélenchon évidemment très fort à gauche, et les autres composantes qui étaient un petit peu réduites, mais par le scrutin finalement de 2022. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire qu'on est dans un équilibre qui est un petit peu rétabli, avec le respect finalement de toutes les composantes de la gauche dans cette alliance. Et encore une fois, sur la base d'un programme, on n'est pas en train de discuter finalement juste d'une allocation des postes et c'est tout. Non, il y a un programme d'avenir. Et si demain on a une majorité à l'Assemblée nationale, on mettra en place justement ce programme sur lequel on est d'accord et sur lequel on s'est dit. Topon, on y va et on va faire ce programme-là.
Et on va se pencher sur ce programme dans quelques instants. Avant cela, quand on a 28 ans, pourquoi le PS ?
Pourquoi pas ? Pour moi, c'était le parti... je me suis engagé au Parti Socialiste en 2014, donc j'avais 18 ans. Et pour moi, c'était le parti qui traduisait le mieux mes combats, mes valeurs, qui répondait aux attentes que j'avais et que j'ai sur justement la vision de la société, sur les propositions qu'on peut faire pour ce pays, pour l'Europe aussi. Hein, vous avez mentionné mon engagement européen également. Et donc, c'est cette vision-là que je veux porter, qui est à la fois celle d'un pays juste socialement, mais aussi d'une approche politique et de la politique qui, moi, me convient. En tout cas, c'est celle du Parti Socialiste. Et donc, je m'y suis retrouvé en 2014 et jamais je n'ai dévié, justement, de ce parti-là. Et aujourd'hui, je m'y retrouve, évidemment, pleinement.
Évoquons maintenant votre situation un peu plus en détail dans votre circonscription, la 8e, donc, circonscription du Val-de-Marne, les communes de Maison-Alfort, Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et Saint-Maurice. Michel Hérillon, du Parti Les Républicains, semble indéboulonnable. Il est maire honoraire de Maison-Alfort, il dit être soutenu par les quatre maires de la circonscription. Vous mettez en cause son bilan dans votre campagne, mais ne craignez-vous pas, comme il est très implanté sur le territoire, qu'il soit élu sur le nom plus que sur le bilan que vous décriez ?
Il y a ce principe de réalité, c'est-à-dire que c'est pas grâce à son bilan parlementaire qu'il a été élu jusqu'à maintenant, puisque son bilan parlementaire est quasi inexistant. Ou bien, à part là depuis 2022, avoir voté la loi asile-immigration, avoir voté pour la réforme des retraites et être favorable à la réforme de l'assurance chômage. Bon, hormis cela, son bilan est quand même assez vide. Et donc, il faut reconnaître, il est élu depuis 1997 député. Mmh. Moi, j'avais un an et demi à ce moment-là. Alors, je veux pas faire que l'âge est un problème, encore une fois, mais enfin, ça dénote quand même pour quelqu'un qui a l'Assemblée depuis maintenant presque 27 ans, d'avoir un bilan aussi réduit. Et donc, certes, il est ancien maire de Maison-Alfort, il est maire honoraire de Maison-Alfort, vous l'avez mentionné, il est connu dans la circonscription, c'est vrai, et maintenant, charge à nous, et avec l'ensemble des camarades qui m'entourent, et des citoyennes et des citoyens qui font cette campagne, et vraiment, je souhaite de les remercier, et saluer le fait que chaque jour, on a des dizaines et des dizaines de citoyennes et citoyens qui nous rejoignent pour faire la campagne, et qui disent justement, Herbignon, il y en a marre, puisqu'il ne nous représente pas comme il le faut à l'Assemblée nationale, on a besoin d'une alternative, une alternative politique aussi, mais une alternative humaine, puisque sur les considérations, sur les problématiques du territoire de nos quatre villes, bah finalement, il y a peu de choses qui ont évolué grâce à lui, hormis essayer de négocier son soutien au budget avec Gérald Darmanin pour gagner le commissariat de Maison-Alfort. Bon, hormis cela, on n'a pas beaucoup d'avancées sur notre territoire grâce à Michel Herbignon. Donc je crois qu'il y a un ras-le-bol aussi de la part des citoyennes et des citoyens. Et donc on propose cette alternative qui est pas seulement un vote contre Michel Herbignon, mais aussi d'adhésion ou d'appropriation de ma candidature.
Oui, donc ce n'est pas le seul candidat, ce n'est pas votre seul adversaire sur la circonscription.
Absolument, puisqu'on a aussi des candidatures d'extrême droite, en l'occurrence deux. Et donc, non seulement, évidemment, je veux faire en sorte que Michel Herbignon ne soit pas notre prochain député, mais également que notre circonscription ne soit pas représentée par un député d'extrême droite, qu'il soit du Rassemblement National ou de Reconquête. Et donc, l'alternative ici qu'il faut poser, c'est celle de ma candidature, et avec toutes celles et ceux qui m'entourent dans cette campagne, pour justement faire en sorte qu'on ait un représentant digne de ce nom à l'Assemblée nationale.
Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de mesures concrètes, et je vais commencer par le pouvoir d'achat, puisque le pouvoir d'achat était la première cause motivant le vote des Françaises et des Français aux élections européennes. C'est une préoccupation majeure qui s'explique notamment par le choc de l'inflation et les salaires globalement bas. Quelles solutions proposez-vous ?
Écoutez, d'abord, il y a une réflexion à avoir quand même sur les produits de première nécessité. Et donc on propose, qui peut paraître en effet une mesure un petit peu radicale, mais je crois que la situation l'exige, c'est un blocage des prix sur ces produits de première nécessité. parce qu'on ne peut pas supporter d'avoir cette inflation qui d'ailleurs perdure alors que la crise, par exemple, sur l'énergie au niveau européen et mondial est un petit peu plus apaisée qu'elle ne l'a été il y a quelques mois ou quelques années. Mais on a cette inflation qui quand même reste élevée. Et ça se fait au détriment évidemment des familles les plus fragiles. Et donc, on a cette nécessité absolue d'avoir cette action sur les dépenses et donc sur les prix. On a un accompagnement évidemment aussi à avoir sur les aspects du logement, puisqu'on le sait, le logement prend une part importante du budget des familles, et donc on a évidemment cette crise du logement qu'il faut résoudre. On a également un travail important à faire sur les salaires, puisque justement, vous le mentionnez, il y a une inflation, et donc avec des salaires qui n'arrivent pas à suivre le rythme, eh bien, on a des gens qui s'appauvrissent en réalité, même en travaillant. Et donc, évidemment, ça c'est quelque chose que, en tant qu'homme de gauche, on ne peut pas accepter d'avoir justement un travail qui ne permette pas de vivre dignement. Et donc, évidemment, c'est ce travail avec la grande conférence sociale sur les salaires, l'emploi et la qualification, puisqu'il faut évidemment avoir tout le monde autour de la table. Également, on a des dépenses de santé qui ont augmenté pour nos concitoyennes et nos concitoyens, et tout ceci avec une offre de santé qui est aussi en dégradation. Donc, on paye plus pour avoir un service qui est mis en danger par les différentes réformes. Et donc, on a évidemment et aussi un projet justement sur une grande loi santé avec la limitation des coûts finalement finaux qui reposent sur les citoyennes et les citoyens, et avec un accès notamment pour les jeunes facilité sur les considérations de santé. Voilà, ce sont quelques exemples. Il y en a plein d'autres. Honnêtement, le programme, il est assez long, il est assez étendu, et pourtant, il s'est fait en quelques jours. Mais on a évidemment beaucoup de travail qui a été fait sur ce programme. Et un dernier élément sur les aspects de l'énergie, garantir l'accès à l'énergie de façon universelle, et notamment faire que les premiers kilowattheures soient gratuits. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, puisqu'on a une grande précarité énergétique alors partout en France, en particulier dans mon territoire, avec des personnes fragiles, notamment des personnes âgées, qui aujourd'hui doivent choisir si se chauffer ou non, ou si finalement allumer leur plaque à induction ou pas, pour pouvoir manger. Donc on a vraiment ces considérations qui sont très concrètes, qui sont très réelles et qui changent la vie des gens.
Et tout cela est-il financièrement tenable ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a des critiques sur ce programme qui dirait ça mène la France à la banqueroute. Alors moi, j'avoue que les leçons de finance de la part de ceux qui se croyaient justement les Mozart de la finance, mais qui entre-temps ont fait dégrader la note de la France, qui aujourd'hui, on a eu l'annonce hier de la part de la Commission européenne, on a une procédure de déficit excessif de la part de l'Europe pour la France et l'Italie. Donc moi, j'aurais finalement très peu de leçons à recevoir de la part du bloc libéral ou du bloc du Front National, qui vraiment n'ont aucune leçon à nous donner. Alors on a quand même des considérations sur justement le financement de notre programme de façon globale. Et je crois que le maître mot justement de cette logique-là, de ce principe-là, c'est la juste répartition. Aujourd'hui, il n'est pas acceptable que l'énorme effort justement en termes d'impôts et de taxes repose quasi exclusivement sur les plus fragiles et les classes moyennes. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, que ce soit à la fois via la TVA ou via les impôts sur le revenu, tandis que les plus riches, mais vraiment les très 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 riches, on parle du 1% de la population française, eux se retrouvent avec des taux d'imposition globaux largement inférieurs à ceux de la classe moyenne et des plus pauvres. Et donc, rétablir un certain sens de cette justice sociale, mais aussi justice fiscale. Et donc, avec le rétablissement d'un ISF, et pour avoir un ISF vert, donc pouvoir financer justement la transition écologique et énergétique sur notre pays, avec également une taxe sur les transactions financières, avec également la taxe sur les super-profits, ça a été mentionné dans le cadre de la campagne des européennes, avec l'initiative citoyenne européenne portée par Aurore Laluc et Paul Magnette, et sur laquelle il faut vraiment s'investir à fond pour faire en sorte que cette réalité existe au niveau européen. On a aussi un travail qui est fait par les pays de l'OCDE, par exemple, pour avoir un taux d'imposition sur les entreprises qui soit avec un minimum, pour éviter justement qu'on poursuive avec l'existence de paradis fiscaux, et donc qu'on aide l'optimisation ou de l'évasion fiscale. Un gros travail aussi justement sur la lutte contre la fraude fiscale, qui est aujourd'hui un sujet qui est complètement balayé par la majorité actuelle. Et donc finalement, il y a de l'argent à aller chercher. Simplement, ça serait bien qu'on arrête d'aller le chercher dans les poches justement de ceux qui donnent tout déjà aujourd'hui, c'est-à-dire les plus fragiles, les plus pauvres et les classes moyennes.
Mais là, vous allez essentiellement le chercher dans les poches de vos électeurs. Je pense à la population de Saint-Maurice ou de Charenton-le-Pont par exemple, qui est le plus souvent une population assez aisée.
Oui, mais même comme ça, en réalité, ça concerne même pas ces gens-là. Moi, je veux rassurer tout le monde. Hein. Quand on parle des taxes, par exemple, justement, sur les plus riches, etc., on parle au grand maximum du 1% de la population française, voire en réalité moins, parce qu'il y a plusieurs mesures qui, en réalité, concernent parfois le 0,0002% de la population française. Ça fait 350 foyers à peu près en France. Alors moi, ça me surprendrait que les 350 soient dans ma circonscription, voire même la moitié. Honnêtement, ce serait très surprenant. Et donc, je veux rassurer tout le monde, et notamment mes électeurs, évidemment. Il y a des gens très identifiés en réalité que ça concerne, des gens et des entreprises, puisqu'il y a aussi quand même une taxation au niveau des entreprises, et notamment les plus grosses. Mais ça ne concerne pas les gens les plus... J'allais dire les gens normaux, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, les gens que je croise dans la rue, ce ne sont pas ceux qui aujourd'hui roucroulent sur l'or et font finalement des super profits sur le dos des pauvres. Non, c'est moi je le vois dans les marchés, etc., avec de plus en plus de gens qui ont du mal justement à aller faire leurs courses, que ce soit au marché, que ce soit à la supérette du coin, et donc doivent trouver des astuces avec des paniers solidaires, des choses comme ça qui se développe, on n'est pas du tout dans un enrichissement de la population sur mon territoire, mais plutôt vers une précarisation de plus en plus grande.
Il y a un thème qui est souvent trop oublié, mais qui a une certaine importance dorénavant, c'est celui de la culture. Et alors, pourquoi pèse-t-elle la culture dans la balance aujourd'hui plus qu'avant? Pour le simple fait que l'insécurité culturelle est devenue un puissant ressort du rassemblement, du vote pour le Rassemblement National. Le fait qu'un individu voit son pays se transformer, un certain nombre de mœurs, d'us et coutumes disparaître, tout cela gère une inquiétude que le RN exploite. Or, la culture est presque absente du programme du NFP. Dans les 15 premiers jours, vous souhaitez une rupture en décrétant l'état d'urgence sociale, en relevant le défi climatique et en défendant le droit au logement. Dans les 100 premiers jours, vous appelez à une bifurcation en travaillant dans le sens du pouvoir d'achat, de la santé, de l'éducation, d'une planification écologique. Bon, mais où est la culture là-dedans? Quand on sait que l'extrême droite veut mettre à mal la culture telle qu'elle est aujourd'hui et son système, où sont les mesures de contre-attaque de la gauche? Et deuxième question, corollaire de la première, pourquoi la culture n'a plus aucun poids dans le débat politique? Pour reprendre les mots de Thiago Rodrigues, directeur portugais du Festival d'Avignon, et Éric Ruff, administrateur de la Comédie Française, dans le journal Le Monde de ce mardi.
Alors, c'est vrai que dans le débat public, pour répondre à la deuxième partie de la question d'abord, on peut s'inquiéter, en effet, du manque d'importance, on va dire, ou de la place donnée à la culture. Et je crois que ça traduit en réalité à la fois l'approche politique de la part de la majorité actuelle et du président de la République sur ces sujets, qui en réalité ne considère pas que la culture est un sujet majeur, et notamment au niveau de la France. Enfin, on parle souvent de l'exception culturelle, mais à un moment donné, il faut que ça se traduise par des actes, il faut que ça se traduise par une politique culturelle qui soit offensive, qui soit ambitieuse. Et vous l'avez mentionné, en effet, il y a un enjeu sociétal à faire en sorte que la culture puisse vivre, notamment dans cet objectif justement de réduire la portée de l'extrême droite, et une culture qui aujourd'hui est menacée justement par l'extrême droite. Alors, on a quand même quelques mesures qu'il faut pas négliger dans ce programme. On a un budget public consacré à l'art qu'on souhaite porter, et à la culture qu'on souhaite porter, à 1% du PIB, c'est quand même pas négligeable.
Comme à l'époque de Jacques Lang sous Mitterrand.
Exactement, donc on voit que là on propose simplement, pour le début, pour juste les premiers jours, revenir à une situation de fait qui était il y a 20 ans. Ça peut paraître, j'ai envie de dire, peu, mais en fait, ça montre l'état de dégradation du financement de la culture aujourd'hui, qui en fait n'est pas du tout à ces niveaux-là.
Mais il y a 20 ans, le déficit de la France n'était pas le même, pas celui d'aujourd'hui.
Je vous ai parlé des mesures de financement qui précisément font en sorte que on puisse avoir une trajectoire sérieuse d'un point de vue budgétaire, mais aussi une trajectoire de transformation sociale du pays, évidemment dans le but de donner du progrès aux citoyennes et aux citoyens. Et là encore, par rapport aux leçons de financement, enfin, ici on est à Radio Alpha, je vais citer un exemple quand même, bien placé pour le savoir, quand la gauche gouverne, comme ça a été le cas par exemple entre 2015 et 2023 au Portugal sous l'administration d'António Costa, on a une trajectoire financière qui a été exemplaire, et le Portugal a été l'un des pays les premiers à se remettre justement de la crise du Covid et tout ce qui s'en est suivi. Et donc ça montre qu'on est en capacité d'avoir à la fois des proposition d'amélioration des conditions de vie, par exemple avec l'augmentation du SMIC que nous on propose, qu'António Costa a fait dans des plus grosses proportions au Portugal, et tout en ayant une trajectoire financière sérieuse. Donc moi je suis confiant en réalité là-dedans. Pour revenir à la culture, moi je crois qu'il faut une vraie défense de deux principes au-delà de la partie du financement. le principe de l'indépendance des médias. Aujourd'hui, on a une concentration médiatique, enfin des médias, qui est dangereuse, qui aujourd'hui guide les masses vers quelque chose qu'on ne souhaite pas. Et donc, il y a cette indépendance qui est aussi d'abord une indépendance financière des médias qui doit exister et qui aujourd'hui n'est plus garantie. Donc, il faut absolument travailler là-dessus. Et puis, on a la garantie d'un service public aussi de l'audiovisuel, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait à la fois de la production, de la création, de la diffusion qui soit française et qui puisse exister notamment en compétition en fait avec un certain nombre d'autres acteurs, de mastodontes européens ou mondiaux. Et donc, il y a évidemment tout un secteur d'activité, mais c'est aussi une politique économique. Finalement, défendre la culture, c'est aussi une politique économique à implémenter là-dedans. Moi, je crois que on a véritablement un combat culturel, mais on le dit comme ça, parfois c'est un mot politique, mais en réalité ça se traduit aussi dans la culture à mener, justement contre l'extrême droite. Et ça passe également, je le disais, par l'indépendance financière des médias, qui aujourd'hui dépendent quasi exclusivement de quelques personnes, et donc qui, selon leur volonté, peuvent orienter d'une façon ou d'une autre, le débat public. Et ça, c'est évidemment pas acceptable. Et donc, il y a cette défense des médias, la défense de leur indépendance, la défense du service public de l'audiovisuel, et puis la défense des travailleurs aussi dans le monde de la culture. On pense aux intermittents, on pense à tout cet écosystème qui travaille dans ce monde-là. Et donc, il faut protéger. Il y a des régimes en France qui, par certains aspects, sont exceptionnels. Il n'y a pas d'autres équivalents en Europe et on nous les envie. Mais ils sont aujourd'hui menacés. Et donc, il faut faire en sorte de pouvoir les pérenniser et améliorer les conditions de travail des acteurs de la culture.
Oui, vous défendez la création d'un nouveau régime pour les artistes auteurs. Lequel ?
Oui, absolument. Alors après, là, je vais reconnaître mes limitations au sens où je ne suis pas un expert de la culture. Vous l'avez mentionné, je suis plutôt un expert du financement des énergies renouvelables. Donc, je ne maîtrise pas, et je le reconnais très humblement, tous les aspects de ce nouveau statut. Mais simplement, l'idée, c'est de bien reconnaître les difficultés qui aujourd'hui existent et donc pouvoir les traduire dans une loi qui puisse justement améliorer les conditions de vie des artistes. Il y a une donnée qui est quand même réelle et aujourd'hui factuelle, qui est de se dire qu'il y a tout un pan justement de la création qui est menacé par l'intelligence artificielle, un certain nombre d'évolutions technologiques qui aujourd'hui pose la question de la survie de ces pans justement d'activité comme par exemple la création audiovisuelle. Et donc il y a cette défense de la création audiovisuelle humaine qui doit exister et qui doit être érigée comme un principe légal, et donc ça passe justement par une loi.
Une partie de nos compatriotes français se sont esseulés après cette dissolution de l'Assemblée nationale qui a donc déclenché un nouveau mouvement de recomposition politique. Et je pense particulièrement à nos compatriotes français juifs qui sont dans une détresse politique immense face à la recomposition partisane de la gauche. À l'annonce de la formation du nouveau Front Populaire le lundi 10 juin, plusieurs institutions juives se sont insurgées face à l'accord passé avec la France insoumise. Que leur répondez-vous ?
Je leur réponds, regardez justement ce qui est écrit dans le programme. On a une page, le programme fait une vingtaine de pages, et je trouve que je l'ai sous les yeux. Et il y a une page justement qui lutte contre tous les racismes, contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Et il y a une phrase qui pour moi est importante, et voilà, qu'il faut avoir en tête. Tous ceux qui propagent la haine des juifs doivent être combattus. Et ça, c'est une phrase, une proposition, une valeur de laquelle nous ne dérogerons pas. Et aujourd'hui, j'invite toutes celles et ceux qui se posent légitimement des questions à regarder justement ce que dit Raphaël Glucksmann. Et il le dit, justement, ça a été une des conditions de son accord à ce nouveau Front Populaire. C'est-à-dire, cette ligne rouge, jamais nous ne lâcherons sur la lutte contre l'antisémitisme. Et moi, je le vois très bien. J'ai eu des tags antisémites sur les affiches de Raphaël Glucksmann pendant les élections européennes. J'ai dû porter plainte justement sur ce sujet. Et donc, en effet, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très prégnant. Et donc moi je vais être clair, le Nouveau Front Populaire est un mouvement, est une alliance politique pour lequel la lutte contre l'antisémitisme est une priorité. Et on ne pourra pas nous faire déroger à cela. Il y a aujourd'hui des propos qui sont tenus par un certain nombre de personnes, par exemple à l'extrême droite, qui tiennent voilà, des propos antisémites, anti-tziganes, anti-musulmans, qui aujourd'hui ne sont pas acceptables. Et donc, à un moment donné, il y a un principe de réalité. Le Rassemblement National a été fondé par des gens qui ont été membres de l'OAS et qui ont été des Waffen-SS. Donc, à un moment donné, l'antisémitisme, en réalité, il est plutôt situé de ce côté-là du paysage politique. Alors après, à chaque fois qu'il y a des discours antisémites, des discours homophobes, des discours qui sont condamnables et d'ailleurs qui sont répréhensibles par la loi, et si cela venait à venir de notre camp, évidemment qu'il faut condamner ces propos. Et là-dessus, il y a une fermeté qui est extrêmement claire, à la fois du Parti Socialiste, mais de tout le Nouveau Front Populaire et de toutes ses composantes. Il n'y aura pas un centimètre qui sera laissé pour ceux qui veulent favoriser justement la division et notamment en favorisant l'antisémitisme.
Comment souhaiteriez-vous qualifier l'antisémitisme aujourd'hui en France ? Est-il résiduel, comme a proclamé Jean-Luc Mélenchon ?
Moi, je ne suis pas d'accord avec cette expression. Voilà, je le dis, je ne suis pas d'accord avec cette expression. L'antisémitisme, je ne veux pas dire évidemment que la France est antisémite, etc. Enfin, ça n'aurait qu'un sens et ça serait une contre-vérité. Maintenant, dire qu'il est résiduel, là on peut le comprendre, c'est de se dire qu'en réalité, ceux qui sont antisémites représentent une partie qui n'est pas majoritaire évidemment de notre pays. Ça, je pense qu'on peut s'en féliciter, et c'est la moindre des choses. Mais par contre, là où je dévie peut-être du mot utilisé par Jean-Luc Mélenchon, c'est que cet antisémitisme s'exprime de façon complètement débridée. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui, qui jusqu'à maintenant, pardon, n'était pas forcément présent avec une telle acuité sur le paysage politique et sur la scène publique. Il y avait des actes antisémites, il y en a toujours eu d'ailleurs, et c'est un problème, et c'est un problème auquel on a rarement en fait apporté des solutions. Mais il est vrai qu'on a une augmentation des actes antisémites qui sont perpétrés, une augmentation des agressions, une augmentation des insultes, une augmentation des profanations, et également tout ceci accompagné par justement des propos qui sont tenus par un certain nombre de responsables politiques, et donc il faut condamner. Et il y a des propos qui sont tenus aujourd'hui dans des médias, et je pense il y a 15 ans ou 20 ans, jamais on n'aurait pensé que ces propos pouvaient être tenus sur des médias, on va dire, de grand tirage ou de grande audience. Et donc, il concerne peut-être une partie non pas majoritaire de notre pays, on a un antisémitisme aujourd'hui qui est débridé. Et donc, il faut lutter, et là-dessus, comme je le dis, nous ne lâcherons pas, et il est impossible justement de laisser ces agressions et ces insultes antisémites progresser.
Les ambiguïtés de ses propos, les dissensions internes à la France insoumise, la purge des frondeurs, l'omnipotence de Jean-Luc Mélenchon au sein de son parti, tout cela pose déjà problème. Comment déborder ces conflictualités ? Si une majorité de gauche se dégage de ces élections, mais qu'elle n'est pas unie, qu'elle est brinque-ballante, la France sera ingouvernable.
Non, je ne le crois pas, mais je crois qu'il faut aussi que la France apprenne à avoir une république parlementaire. C'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié depuis la Ve République, que parfois on a récupéré avec les cohabitations et encore. Avoir des composantes diverses, qui ne sont pas d'ailleurs d'accord sur tout, mais qui ont un contrat de gouvernement, en fait, ça concerne l'ultra-majorité des pays en Europe. D'ailleurs, ça a concerné le Portugal quand on avait Gelingons. Donc, ça existe.
La brinque-ballante, justement.
Bah, justement. Et finalement, ça, il y a eu des difficultés. Je dis pas que, dans le cas portugais, je dis pas que tout a coulé de source à tout instant dans le mandat. Mais on a fait progresser le pays. Bah, c'est exactement ce qu'on propose aussi pour la France. On n'est pas d'accord sur tout, c'est vrai. Il y a des personnalités qui clivent plus que d'autres, c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, dans le cadre de la campagne, on est dans cet objectif d'avoir le maximum de députés du Nouveau Front Populaire. On verra derrière les équilibres, évidemment, au sein de l'Assemblée nationale. Mais l'idée, c'est que les députés du Nouveau Front Populaire appliqueront le programme sur lequel nous nous engageons tous les candidats des 577 circonscriptions pour faire en sorte justement d'appliquer ce programme et de transformer le pays et de changer la vie des gens. Et donc ça se passe, j'ai envie de dire, des divisions, des dissensions, des égos. Aujourd'hui, on travaille tous et tous dans cet objectif d'avoir le maximum de députés du Nouveau Front Populaire, le minimum de députés d'extrême droite pour faire en sorte justement de changer le pays.
João Martins Pereira, ce sera ma dernière question. Quelle conception avez-vous du peuple ?
C'est sûr que c'est la dernière question parce que là j'étais dans le temps qui nous a imparti. Bon, mais ma conception du peuple, moi aujourd'hui on a un peuple qu'on pousse à la division, qui est craintif, Et aujourd'hui, moi, je dois le dire, et c'est vrai que même du côté du Nouveau Front Populaire, enfin, on est conscient en fait de la grande peur qu'il y a aujourd'hui de l'extrême droite. Et en réalité, les trois blocs que vous décriviez dans la bouche de Gérald Darmanin, les trois reposent un peu sur la peur. Sauf que le bloc libéral et le bloc du Front National, eux, ne reposent que sur la peur. Et donc jouent justement sur ces sentiments premiers du peuple pour essayer de capter un vote et de prendre le pouvoir. Nous, on n'est pas dans cette optique-là. On est dans cette optique de défendre justement le peuple, de lui apporter une alternative démocratique, de lui apporter aussi une alternative d'espoir, et non pas seulement juste un vote contre, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais d'avoir justement un projet positif pour notre pays. Et donc aujourd'hui, on a un peuple qui est, je crois, voilà, dans cette situation de crainte, d'incertitude vis-à-vis des changements politiques qui peuvent arriver dans ce pays, mais on a aussi un peuple pour partie qui souffre. Et qui, pour qui d'ailleurs, je pense que beaucoup des débats politiques en réalité sont un peu déconnectés de leur quotidien, de leur réalité, puisque parler d'un certain nombre de principes quand on n'arrive pas à boucler la fin de mois, quand on n'arrive pas à avoir une place en crèche, quand on n'arrive pas à trouver un logement, quand on n'arrive pas à trouver un travail. Toutes les considérations, parfois un peu éthérées des débats politiques nationaux semblent bien loin. Et donc, je crois qu'on a un peuple qui aspire en réalité à rentrer davantage dans les institutions, et c'est l'option que nous proposons justement dans le cadre du Nouveau Front Populaire, de faire que le peuple justement soit peut-être plus écouté dans l'exercice du pouvoir, pas seulement une fois tous les 5 ans, pas seulement à l'occasion d'une dissolution de l'Assemblée nationale, mais plutôt dans tout l'exercice politique, puisque nous gouvernons pour le peuple, par le peuple. Et donc ça, c'est avec lui. Et ça, il faut pas oublier justement cette troisième composante. C'est avec le peuple que les gouvernants doivent prendre leurs décisions. Et donc jamais contre. Et donc c'est justement l'engagement que nous prenons. Et j'espère justement que le peuple pourra justement se retrouver dans cette option politique.
João Martins Pereira, candidat avec Cécile Panassac du Parti Socialiste et du Nouveau Front Populaire pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains pour les communes, je le répète, de Maison-Alfort, Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et Saint-Maurice, autrement dit la 8e circonscription du Val-de-Marne. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Alpha.
Merci pour l'invitation.